Or, dans toutes ces situations, l'homme est-il bien d'accord avec lui-même? Au contraire, ne se trouve-t-il pas, par rapport à sa conduite, en contradiction et en lutte avec lui-même, comme il s'y trouvait tout à l'heure, à l'occasion de la vue, portant tout à la fois sur le même objet deux jugements contraires? Mais je me rappelle qu'il est inutile d'insister sur ce point, parce que nous sommes demeurés d'accord précédemment que notre âme était pleine d'une infinité de contradictions qui y règnent en même temps. Nous avons eu raison. Sans doute, mais il me semble nécessaire d'examiner à présent ce que nous avons omis pour lors. De quoi s'agit-il, Socrate? Nous disions alors qu'un homme d'un caractère modéré, à qui il sera arrivé quelque disgrâce, comme la perte d'un fils, ou de quelque autre chose extrêmement chère, portera cette perte plus patiemment que ne ferait tout autre. Eh bien, voyons maintenant s'il sera tout à fait insensible à cette perte, ou si, une telle insensibilité étant une chimère, il mettra du moins des bornes à sa douleur. À dire vrai, c'est là plutôt ce qu'il fera. Dis-moi encore, dans quel temps se fera-t-il plus de violence pour surmonter sa douleur? Sera-ce lorsqu'il sera en présence de ses semblables, ou lorsqu'il sera seul vis-à-vis de lui-même? Il prendra bien plus sur lui-même lorsqu'il sera devant le monde. Mais, se voyant sans témoin, il laissera sans doute échapper bien des plaintes qu'il aurait honte qu'on entendît. Il fera mille choses dans lesquelles il ne voudrait pas être surpris. Il est vrai. Ce qui lui ordonne de se roidir contre la douleur, c'est la loi et la raison. Au contraire, ce qui le porte à s'y abandonner, c'est la passion. J'en conviens. Or, lorsque l'homme éprouve ainsi deux mouvements contraires par rapport au même objet, c'est une preuve, disons-nous, qu'il y a en lui deux parties aux prises. Assurément. L'une qui est prête à obéir à la loi en tout ce qu'elle prescrit. Comment cela? Par exemple, la loi dit qu'il est beau de conserver le plus de calme possible dans les malheurs, et de ne pas se laisser emporter au désespoir. Et cela parce qu'on ignore si ces accidents sont des biens ou des maux, qu'on ne gagne rien à s'en affliger, que les événements de la vie ne méritent pas que nous y prenions un si grand intérêt, et surtout que l'affliction est un obstacle à ce qu'il faut s'empresser de faire en ces rencontres. Que faut-il donc faire alors? Prendre conseil de la raison sur ce qui vient d'arriver, réparer sa mauvaise fortune, comme on répare un mauvais coup que les dés ont amené, c'est-à-dire par les moyens que la raison aura reconnus les meilleurs, et n'aller pas au premier choc, portant la main, comme des enfants, à la partie blessée, perdre le temps à crier, mais plutôt accoutumer son âme à appliquer le plus promptement possible le remède à la blessure, à relever ce qui est tombé et à se soigner au lieu de se lamenter. C'est ce qu'un homme peut faire de mieux dans les malheurs qui lui arrivent. C'est, disons-nous, la plus saine partie de nous-mêmes qui sait prendre ainsi conseil de la raison. Évidemment. Et cette autre partie qui nous rappelle sans cesse le souvenir de nos disgrâces, qui nous porte aux lamentations et qui ne peut s'en rassasier, craindrons-nous de dire que c'est quelque chose de déraisonnable, de lâche et de timide? Bon, nous le dirons sans balancer. Or, ce dernier principe, celui des douleurs violentes, offre à l'imitation une matière riche et variée. Le caractère sage et tranquille, au contraire, toujours semblable à lui-même, n'est ni facile à imiter, ni, une fois rendu, facile à bien concevoir. Surtout pour cette multitude confuse qui s'assemble d'ordinaire dans les théâtres, car ce serait lui offrir l'image d'une disposition qui lui est tout à fait étrangère. Sans contredit. Il est donc évident que le génie du poète imitateur ne le porte pas vers cette partie de l'âme, et qu'il ne s'attachera point à lui plaire, s'il tient à obtenir les suffrages de la multitude, mais qu'il s'accommode bien mieux des caractères passionnés et mobiles qui sont faciles à imiter. Cela est évident. Nous avons donc une juste raison de le condamner et de le mettre dans la même classe que le peintre. Il a cela de commun avec lui, de ne composer que des ouvrages qui ne valent rien, rapprochés de la vérité. Il lui ressemble encore en ce qu'il s'adresse à la partie de l'âme qui ne vaut pas non plus grand-chose, au lieu de s'adresser à ce qu'il y a de meilleur en elle. Nous sommes donc bien fondés à lui refuser l'entrée d'un état qui doit être gouverné par de sages lois, puisqu'il réveille et remue la mauvaise partie de l'âme, et qu'en la fortifiant, il détruit l'empire de la raison. Ainsi qu'il arriverait dans un état où on livrerait le pouvoir aux mauvais citoyens et où on ferait périr les bons. Car c'est l'image du désordre que le poète imitateur introduit dans le gouvernement intérieur de chaque homme, par l'excessive complaisance qu'il a pour cette partie insensée de notre âme qui ne sait pas distinguer ce qui est plus grand et ce qui est plus petit, qui tantôt exagère, tantôt rapetisse les mêmes objets, produit des fantômes, et est toujours à une distance infinie du vrai. Tu as bien raison. Et cependant, nous n'avons rien dit encore de la plus grave accusation qu'il y aurait à porter contre elle. N'est-ce pas en effet quelque chose de bien fâcheux de voir qu'à l'exception d'un très petit nombre, elle est capable de corrompre les gens sages? Certainement, s'il en est ainsi. Écoute, et tu jugeras. Tu sais que, tous, tant que nous sommes, je dis même les plus raisonnables, lorsque nous entendons réciter les endroits d'Homère ou de quelque autre poète tragique, où l'on représente un héros dans l'affliction, déplorant son sort dans un long discours, poussant des cris et se frappant la poitrine, tu sais, dis-je, que nous ressentons alors un plaisir secret auquel nous nous laissons aller insensiblement, et qu'à la compassion pour le héros qui nous intéresse se joint l'admiration pour le talent du poète qui nous met en quelque sorte dans le même état que son héros. Je le sais, et comment pourrais-je l'ignorer? Cependant, tu as pu remarquer que, dans les disgrâces qui nous arrivent à nous-mêmes, nous croyons qu'il est de notre honneur de prendre le parti contraire. Je veux dire, d'être ferme et tranquille, persuadé que ce parti convient à un homme et qu'il faut laisser aux femmes ces mêmes plaintes que nous venons d'applaudir. Il est vrai. Mais où est le bon sens? Je ne dis pas de voir sans indignation, mais d'approuver avec transport dans un autre une situation que nous croirions indigne de nous et où nous rougirions de nous trouver. En vérité, cela n'est guère raisonnable. Non, sans doute, surtout si nous regardons la chose du côté qu'il la faut regarder. De quel côté, Socrate? Si nous considérons que cette partie de notre âme, contre laquelle nous nous roidissons dans nos propres malheurs, qui est affamée de pleurs et de lamentations, qui voudrait s'en rassasier, et qui, de sa nature, est portée à les rechercher, est la même que les poètes flattent et s'étudient à satisfaire. Que dans ces occasions, cette autre partie de nous-mêmes, qui est la plus excellente, n'étant pas encore assez fortifiée par la raison et par l'habitude, néglige de surveiller la partie pleureuse, alléguant qu'après tout, celle-ci est simple spectatrice des malheurs d'autrui, et qu'il n'est pas honteux pour elle de donner des marques d'approbation et de pitié aux larmes qu'un autre, qui se dit homme de bien, verse mal à propos. On compte comme un gain le plaisir que l'on goûte alors, et on ne consentirait pas à s'en priver par la condamnation de tout le poème. En effet, peu de gens font réflexion qu'on s'applique nécessairement à soi-même ce qu'on a accordé aux douleurs d'autrui, et qu'après avoir nourri l'excès de notre sensibilité par ces maux étrangers, il est bien difficile de la modérer dans les nôtres. Oui, cela est certain. N'en dirons-nous pas autant du ridicule? Si tu écoutes non seulement sans aversion, mais avec des éclats de gaieté, soit au théâtre, soit dans les conversations, des bouffonneries que tu rougirais toi-même de dire, il t'arrivera la même chose que pour les émotions pathétiques. Ce désir de faire rire, que la raison réprimait auparavant en toi, dans la crainte où tu étais de passer pour bouffon, tu lui donnes carrière, et après avoir nourri à la comédie ce goût de plaisanterie, tu laisses souvent échapper, dans tes relations avec les autres, même sans y prendre garde, des traits qui font de toi un farceur de profession. Il pourrait bien en être ainsi. La poésie imitative produit en nous le même effet pour l'amour, la colère et toutes les passions de l'âme, agréables ou pénibles, dont nous avons reconnu que nous sommes sans cesse obsédés. Elle nourrit et arrose en nous ces passions, elle les rend maîtresses de notre âme, quand il faudrait au contraire les laisser périr faute d'aliments et nous en rendre maîtres nous-mêmes, si nous voulons devenir heureux et vertueux, et non pas méchants et misérables. Je ne puis m'empêcher d'en convenir, Socrate.